7h48, nous avons de la misère à joindre Fabien Major, notre chroniqueur financier. On voulait parler de la situation en Syrie. En quoi est-ce que ça peut affecter nos portefeuilles? Ben, tiens, je vais tenter une réponse. Moi, je ne suis pas un économiste, mais je vous dis, quand il y a de l'instabilité au Moyen-Orient, vous savez qu'est-ce qui arrive habituellement. Eh oui, le prix à la pompe augmente du côté de nos stations-service. Alors moi, je m'attends à une augmentation du prix de l'essence. Alors, par contre, si vous avez des pétrolières dans votre portefeuille, d'après moi, ça risque d'être payant. Les fabricants d'armement aussi, hein? On va en parler avec M. Lester, Normand Lester, dans une trentaine de minutes, avec la quantité de bombes qu'on va envoyer du côté de la Syrie. Je peux vous dire qu'il y a des marchands d'armes américains qui risquent de faire fortune. Je ne sais pas si Fabien va entériner ma théorie. Il vient tout juste de se joindre à nous. Fabien Major, bon matin.
Oui, bonjour.
Alors, on est en train de parler de la situation en Syrie. On veut savoir là, quelles seront les conséquences sur la bourse.
Ben déjà, il y en a, parce qu'hier, à peu près toutes les places boursières ont chuté. C'est sûr que ce qui est proche de la Syrie, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, oui, l'Europe, ben tout ça a été secoué, et puis les baisses sont significatives. Ce sont des baisses temporaires. Ça a emporté aussi les places boursières nord-américaines. On a eu des reculs de plus de 100 points à la Bourse de Toronto, à la Bourse de New York également. Mais aujourd'hui, d'après moi, cela va se continuer un peu. Mais ça va se préciser. Ce que les investisseurs n'aiment pas à la bourse, principalement les spéculateurs, parce que ce sont eux qui font bouger quotidiennement les marchés, qu'est-ce qu'on n'aime pas? C'est l'inconnu. Et actuellement, on ne sait pas s'il y aura des frappes, et s'il y en a, de quelle sorte de frappe ce sera. Est-ce que ce sera de courte durée? Est-ce qu'il va y avoir, une invasion au sol, ce qui est de moins en moins plausible? En tout cas, on veut punir le régime syrien, et puis c'est principalement ça qui cause des turbulences sur le marché. Ce n'est pas la première fois qu'on observe des turbulences ou des tensions géopolitiques et qui causent des baisses de marché. Et c'est pour ça qu'il faut se calmer le gros nerf ce matin et voir les choses de minute en minute. Cependant, ça ne va pas changer le portrait. Je veux vraiment qu'on fasse un parallèle. Regardez ce qui se passe en Syrie. Oui, c'est grave. Oui, c'est important. Ça va ébranler tout l'échiquier géopolitique là-bas. Ça peut raviver certaines tensions. Ça ne change pas que dans notre quotidien, les pharmacies, les Jean Coutu, les Walmart, les Dollarama, des entreprises aussi dans l'alimentation de toutes sortes, on peut penser à Molson Coors, etc. Les banques canadiennes sont toujours des entreprises bien gérées, et celles-là ne verront pas d'impact sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Alors, s'il y a une baisse temporaire, les entreprises ici continuent d'avoir de la demande, mais tout se transforme. C'est clair que c'est un peu inquiétant, mais votre argent est à l'abri, vos rires sont en sécurité, et faut pas hyperventiler avec ça.
Ouais, Fabien, il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent dans leur véhicule et qui sont inquiets, parce qu'habituellement, quand il y a des tensions au Proche-Orient, le prix à la pompe augmente. Et on sait que l'essence est déjà, le prix est déjà très élevé, à 1,34 $ dans la région. Est-ce que ça risque de faire augmenter le prix du baril du pétrole, ce conflit?
Oui, ça a déjà eu une augmentation, et qu'est-ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, c'est que le baril, ben, on a deux sortes de barils. Il y a le Brent, la mer du Nord, il y a le Texas, et vous avez le baril de brut léger, qui est celui qu'on trouve du côté centre et ouest de l'Amérique, et du côté est et du côté québécois, ben, c'est celui des prix de la mer du Nord. Maintenant, ces deux prix-là sont presque identiques. Ça tourne entre 105 et 114 $. Évidemment, il va y avoir des tensions, parce que qui dit Golfe Persique dit transport pétrolier par cargo, par pétrolier, puis évidemment, les passages seront limités, et effectivement, ça a une répercussion. Ça va avoir de la répercussion carrément sur le prix de l'essence lorsque ça va s'étirer dans le temps, parce que dans quelques jours, des soubresauts comme ça, advenant le fait qu'il y a des frappes militaires, puis paf, le régime démissionne, puis ça se règle tout de suite, on va voir l'inverse. Les prix, il va y avoir un assouplissement, et puis ça se répercute malheureusement pas tout de suite à la pompe d'une façon ou d'une autre. Et si ça se répercute à la pompe, encore une fois, on pourra douter la bonne foi de nos pétrolières.
Fabien, je vais avoir l'air un peu vautour, là, mais ce conflit-là, est-ce que ça amène des occasions pour les gens qui veulent acheter des actions? Exemple, si on y va du côté des fabricants d'armes américains, est-ce que les actions risquent d'augmenter?
Oui, peut-être, peut-être, mais tout ça, c'est temporaire. C'est pour le spéculateur, parce que l'investisseur n'a pas à regarder des mouvements comme ça à court terme pour faire ses choix d'investissement. Mais ceux qui veulent s'amuser à spéculer, ben c'est quelque chose où on peut se brûler aussi, là, parce que d'un autre côté, si c'est très pacifique et s'il y a un désarmement de certains pays à la suite de ça, ben là, ça va être l'effet contraire.
Fabien, tu as prononcé le mot spéculateur. J'aimerais qu'on définisse les différences entre spéculateur, investisseur et épargnant.
Oui, ben justement, le spéculateur, c'est celui qui quotidiennement se réveille avec une mission, je veux faire de l'argent aujourd'hui. Okay. Il y a des spéculateurs qui sont engagés par les banques, et c'est ceux-là qui sont sous la sellette avec toutes sortes de scandales, puis qui sont aussi à l'origine de la manipulation des prix des fameux subprimes. Okay. Alors, le spéculateur, lui, n'est pas un investisseur. Il rapporte rien du tout à la société. Il ne veut que s'enrichir à court terme. Et tous les mouvements, tous les écarts de prix, qu'ils soient dans le négatif, dans le positif, c'est bon pour lui. Il fait des paris avec ça. Alors, le spéculateur, je pense pas que c'est monsieur, madame, tout le monde avec les économies du fonds de pension. On ne souhaite pas ça parce que c'est un jeu qui s'apparente au casino. L'investisseur, lui, a du temps devant lui et s'intéresse au marché. Puis, il sait que le temps va faire des récoltes. L'investisseur, c'est un peu le paysan, c'est l'agriculteur, c'est celui qui sème et qui finit par récolter. Et il y a une science derrière ça, dans le sens qu'on va étudier les engrais pour faire profiter ces investissements. On va ajouter des petites touches de toutes sortes, on va surveiller, on va arroser. Mm-hmm. Et l'investissement, dans le cas d'un REER, dans le cas d'un CELI, ben, faut en prendre soin et puis il faut regarder loin. Parce que si on regarde seulement le quotidien, ben là, on tombe dans la trappe du spéculateur et ça peut être très douloureux. Et puis enfin, je vais vous parler de l'épargnant parce qu'il est bien différent des deux autres. L'épargnant, c'est celui qui veut pas que ça bouge pantoute, puis il veut certainement prendre aucun risque parce qu'il ne sait pas s'il peut avoir besoin de son argent. C'est quelqu'un dont la santé est précaire, c'est quelqu'un d'hyper nerveux, c'est quelqu'un qui connaît pas les marchés et qui ne s'y intéresse pas. Alors pour cette personne-là, ne prenez aucun risque et puis dormez tranquille, mais laissez pas ça en dessous de votre matelas parce que c'est pas un endroit sûr.
En terminant, Fabien, j'aimerais comprendre pourquoi le patron de Microsoft qui a annoncé son départ, pourquoi est-ce que ça réjouit les marchés et qu'est-ce qu'il a fait pas correct, si tu me permets l'expression?
C'est différent en soi. Il est là depuis très longtemps. Steve Ballmer, ça faisait plus de 25 ans qu'il était dans l'environnement de Bill Gates. Il est devenu président de Microsoft quand Bill Gates s'est retiré en jugeant qu'il avait vraiment beaucoup de milliards et puis que maintenant il s'activerait à le dépenser avec des œuvres de charité. Ballmer a pris Microsoft et puis c'est un être assez extravagant, exubérant, un peu prétentieux, mais il fait des déclarations à l'emporte-pièce, mais surtout il ne livre pas la marchandise. Il a été le premier à affirmer lorsque l'iPhone a été lancé que cet appareil-là n'avait aucune chance d'avoir quelconque part de marché, mais aucune chance.
Okay.
Ça, vraiment, l'histoire lui donne vraiment pas raison, là. Mais Ballmer a toujours réagi à ce qui était lancé sur le marché. Le Zune devait concurrencer le iPod. Il a lancé ensuite de ça toutes sortes de produits qui ont été des flops monumentales, mais la pire gaffe, je crois que c'est Vista. Vista, le système d'exploitation de Windows, a été une ratée totale et ça a mis à dos bien des partenaires de Microsoft. Ils ont lancé Bing, le moteur de recherche qui devait concurrencer Google. Encore là, ce n'est pas significatif, mais pas du tout. Les tablettes Surface, ça fait du surplace. Et puis, dernièrement, le Windows 8 est très, très, très décevant. Et les gens qui sont proches, les entreprises qui sont proches de Microsoft sont vraiment irrités avec les problèmes de Windows 8. Je pense à Dell, à HP, à Intel. Et on a demandé à la haute direction de Microsoft, certainement, de faire de la place. Et puis, on veut un vent de fraîcheur à la direction. Mais là, c'est étonnant parce que l'action a bondi de plus de 7% vendredi. Ça veut dire que la capitalisation de Microsoft s'est augmentée de 23 milliards en annonçant la départ d'un seul individu, pour vous dire qu'il était assez mal aimé. Oh, on va juste lui reconnaître un succès, c'est la Xbox, et c'était son idée, son bébé.
OK. Donc, si je comprends bien, s'il avait été dans l'industrie des boissons gazeuses, lui, le nouveau Coke, il aurait été pour ça.
Oui.
Fabien, merci de nous avoir parlé ce matin.
Bonne journée.
Bye-bye, Fabien Major, qui est conseiller en sécurité financière. Vous pouvez le suivre sur le web en visitant majorblog.net.